Nous allons faire une lecture maintenant dans le premier livre des rois au chapitre 17. Premier livre des rois, chapitre 17, à partir du verset 1er. Nous lisons « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. » Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. C'est un texte, je pense, que nous connaissons, que nous avons déjà lu, médité. Mais il est bon, ce matin, je pense, que nous puissions y revenir quelques instants, parce qu'au travers de ce texte, il y a des clés, je le pense. Nous voyons deux personnages, et s'il est vrai que nous voyons Élie, cet homme de Dieu, réagir d'une certaine manière, nous voyons également cette femme veuve qui vit d'autres choses, dans d'autres circonstances. Élie, vous savez, était intègre, c'était un homme de Dieu, un homme qui ne supportait pas l'apostasie. Et il est inutile ce matin de rappeler à notre esprit que nous sommes dans des temps apostates, que ce que vivait Élie, nous le vivons nous également. Et Élie, on le sait, va prendre un risque, va s'opposer à cette apostasie en prononçant une parole de Dieu, une parole de condamnation. Voici, il n'y aura plus aucune pluie dans le pays. Nous le savons. Et c'est ce qui s'est passé. En d'autres termes, la sécheresse qui est venue dans le pays a été commandée par Dieu, dit selon la parole d'Élie. Et Élie, on voit, et c'est l'introduction, mais vous allez voir où je souhaite en arriver ce matin, Élie, on le voit, n'est pas pris de court par rapport à cette sécheresse. Parce que Élie savait toujours entendre la voix de Dieu, et il y avait dans son cœur cette assurance, cette certitude que Dieu dirigeait ses pas, que c'était le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui allait le conduire, qui l'avait conduit à se montrer, se présenter devant Akab pour dire cette parole, mais également par la suite. Et on le voit, Élie est nourri par des corbeaux, pas de problème pour la nourriture, pas de problème pour l'eau. Et la parole de Dieu nous dit, c'est ce que nous avons lu, au verset 7, « Au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. » Là aussi, pas de problème pour Élie, pas de problème pour Dieu. C'est le même Dieu qui pourra dire, et les textes, les chants que nous avons chantés ont présenté cela également d'une manière claire, c'est le même Dieu qui a dit « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées, je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Ésaïe 41, verset 18, nous connaissons cela et c'est le même Dieu qui a dit cela, qui a permis que ce torrent soit à sec. Pour Élie, c'était une formation, c'était une préparation. Kérit, c'était le lieu tranchant, c'était le lieu où il allait être émondé, c'était le lieu où il allait être façonné pour la suite. Et Élie part de Kérit à Sarepta, et Sarepta, ça signifie lieu du fondeur, épreuve. Pour Élie, ça continue la formation. Dans notre vie, dans notre propre vie, on peut faire facilement le parallèle avec la vie d'Élie. Et d'ailleurs, vous allez voir que dans ces versets, on a peut-être plus envie de faire le parallèle avec la vie d'Élie qu'avec la vie de cette veuve. On sait qu'on est continuellement travaillé, façonné par Dieu. On sait que nous qui avons été rachetés par le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes conduits par lui. Nous pouvons reconnaître sa voix, nous pouvons l'entendre et nous pouvons lui obéir. Et si on doit aller d'un lieu qui s'appelle Kérit, où on est émondé, à un autre lieu où on sait qu'il y aura encore des épreuves, normalement, si l'on sait que Dieu est avec nous, ça ne pose pas de problème. Parce que Dieu veut toujours nous faire grandir. Dieu, au travers des épreuves, veut que nous puissions vivre de nouvelles expériences, que nous puissions comprendre son intimité, ce qu'il veut nous dire. La sécheresse extérieure n'avait pas, et c'est là où je vais en arriver ce matin, n'avait pas eu d'impact dans la vie d'Élie. Je ne sais pas comment nous vivons les temps que nous vivons, mais ce n'est pas une grande révélation ce matin que de dire que notre monde, d'une manière spirituelle, est sec, est vide, sans ferveur pour Dieu, sans piété. Pour reprendre cette expression que le Seigneur Jésus pourra dire, sans cette eau vive, c'est évident. Mais là où nous pouvons nous poser cette question, c'est que qu'est-ce qui se passe dans notre propre vie par rapport à ce monde? Parce que c'est Jésus qui a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et on est tous d'accord pour dire que c'est Jésus qui a dit ça. Et lorsque nous voyons ce texte, nous pouvons dire, même si ça a eu lieu des centaines et des centaines d'années avant que Jésus-Christ puisse prononcer cette phrase, Élie vivait cette réalité. Peu importe ce qui nous entoure, peu importe la sécheresse, peu importe les déserts de ce monde, peu importe les épreuves, peu importe tout ce que nous pouvons vivre et côtoyer, en nous, il doit y avoir cette source d'eau vive. Seulement voilà, on peut vivre cela d'une manière différente. Vous savez, Dieu avait ordonné aux corbeaux d'aller nourrir Élie. Pas de problème pour les corbeaux, ils ont su obéir Dieu. Pas de problème pour Élie, il savait que ce que Dieu allait faire, que ce que Dieu promet, il est pleinement capable de l'accomplir. Dieu va ordonner à une femme de nourrir Élie. Et c'est là où ça devient compliqué ce matin. Et c'est là vraiment où j'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant. Et je sais pertinemment que cette femme était dans un pays païen, on le sait. Cette femme avait une certaine connaissance de Dieu, mais quand même Jésus-Christ va reprendre cette histoire dans Luc chapitre 4 pour honorer la foi de cette femme, pour montrer le plan de Dieu également. Et je pense que nous pouvons quelquefois, et c'est peut-être le cas de ce matin, et il y a eu un don spirituel d'ailleurs qui allait dans ce sens, peut-être nous identifier à ce que cette femme a fait, à ce que cette femme a vécu. Parce que Dieu a dit la même chose. J'ai ordonné au corbeau, j'ai ordonné à cette femme. Simplement, nous, on réfléchit plus que les corbeaux. Nous, on calcule plus que les corbeaux. Nous, on analyse plus. Nous, on ressent peut-être sûrement plus de choses que les corbeaux. Nous, on a des yeux humains qui peuvent être en contradiction avec les yeux de la foi. Nous, on ressent des choses, notre chair éprouve des choses qui peuvent être en contradiction avec cette vie spirituelle, cet homme fait, cet homme mature d'une manière spirituelle, et cette femme, je ne sais pas si vous comprenez comme moi le texte, avait dû saisir quand même qu'elle devait avoir à charge ce pasteur. Cette femme avait dû comprendre que son rôle dans sa vie, quand bien même elle n'avait rien du tout, ou je vais le dire autrement, quand bien même elle n'avait que très peu de choses, cette femme avait dû comprendre que ce qu'elle avait, ça aurait dû être pour Dieu. Et elle va prononcer cette parole qui peut être grave, qui peut peut-être être le cas d'une personne ce matin, lorsque l'homme de Dieu va se présenter devant elle, elle va dire « Je n'ai rien de cuit ». Pourtant, Dieu lui avait dit. Pourtant, elle aurait pu vivre cela d'une manière différente. Pourtant, elle aurait pu dire à cet homme de Dieu « Écoute, j'ai pas grand-chose, c'est la famine, c'est la sécheresse à l'extérieur, mais je sais que ton Dieu, puisque c'est comme ça qu'elle va l'appeler, je sais que le Dieu d'Israël peut faire quelque chose pour moi. » Et dans notre vie, nous pouvons être nous-mêmes confrontés à cela, dans le sens où la sécheresse extérieure, ce manque de pluie, de rosée divine, ce que nous voyons finalement dans notre quotidien peut venir impacter notre vie. Et cette femme va dire, mais j'ai juste de quoi manger, nourrir mon fils et moi, et je vais mourir. J'ai juste la foi pour terminer cette journée. J'ai juste la paix. Mais demain, je ne sais pas si j'aurai la paix. J'ai juste cette confiance en Dieu, mais qui est tellement fragile, qui repose sur des bases tellement friables, que je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à être fidèle à Dieu. Je vais faire juste de quoi manger et je vais mourir. Pour cette femme, c'était uniquement ça, sa vie, ou cette période de sa vie plutôt. Et je l'ai dit, ça peut être notre cas ce matin. On peut vivre cela. Et c'est le drame, c'est un drame évangélique d'arriver à copier, à se calquer sur le monde par rapport à notre foi et notre manière d'être. Parce qu'on est tous d'accord ce matin pour dire que la parole de Dieu est toujours actuelle, que Dieu n'a pas changé. Que Dieu est toujours le même, que son amour est toujours le même, que sa puissance est toujours la même, que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Que la compassion, la miséricorde qu'il a usée envers nous au jour de notre conversion, c'est cette même miséricorde, c'est cette même compassion qu'il est capable de manifester à notre égard aujourd'hui. Seulement, voilà, peut-être que le temps est là, la sécheresse est là, le manque de pluie, le manque de communion, le manque d'intimité, le manque d'expérience spirituelle avec Dieu peut nous en arriver à dire, à faire que finalement, la parole de Dieu n'est plus suffisante dans notre vie. Je n'ai rien de prêt. Je n'ai rien de prêt. On peut être loin à ce moment-là de ce que Jésus a pu dire, des fleuves d'eau vive couleront jusque dans la vie éternelle. On se retrouve dans une fracture spirituelle, dans un schisme où finalement cette eau vive ne va pas, n'est pas renouvelée continuellement en nous, n'est pas placée, n'est pas le témoignage de notre expérience, de notre intimité avec Dieu, mais on est peut-être à l'image de cette femme où nous vivons sur nos réserves et il n'est plus question de vie éternelle. Il n'est plus question de cette eau qui se renouvelle, il est question de cette eau peut-être qui dure qu'une journée, qu'une semaine, qu'un mois. Je vais à l'église, ça me permet de tenir quelques jours, mais les mêmes choses reviennent à mon esprit. Mais la même sécheresse est là. Ce même quotidien n'a pas changé. Ces mêmes choses demeurent et perdurent. Alors que la parole de Dieu dit une certaine chose, Je suis peut-être quelquefois loin de vivre ce que la parole de Dieu nous dit. Et laissez-moi vous dire que, au-delà de ce récit, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, je le crois ce matin, c'est que peu importe l'environnement dans lequel nous sommes, peu importe les circonstances que nous vivons, peu importe l'apostasie que nous voyons, que nous connaissons, que nous reconnaissons, peu importe toutes ces choses, lui demeure toujours le même. Lui n'a pas changé. Lui veut bénir son peuple. Lui veut combler. Lui veut que nous puissions saisir qu'il a encore des choses à communiquer à ses enfants. Cette femme va dire « Je n'ai rien ». Vous savez, ça m'a fait penser à ce texte que nous pouvons trouver dans le livre d'Ézéchiel. On sonne de la trompette. Tout est prêt, mais personne ne marche au combat. Tout est prêt. On sonne de la trompette. Et le peuple de Dieu sait qu'il y a ce combat de la foi à mener. Et à l'image de cette femme, peut-être que nous pouvons dire, mais c'est peut-être le cas de ma vie. La trompette sonne, tout est prêt pour que nous puissions aller au combat, mener ce combat de la foi, puisque je pense que nous sommes tous d'accord, et cela a été dit dans les prières, cela a été rappelé dans les chants, que Jésus-Christ a tout accompli. Donc tout est prêt, tout est pourvu pour notre vie spirituelle, pour notre piété, pour notre marche quotidienne. Jésus a tout prévu. Il est impossible de penser le contraire. Il est impossible de penser que Dieu nous laisse de côté. Il est impossible ce matin de même s'imaginer un Dieu qui nous aime au point qu'il a donné sa vie pour nous, nous mettre de côté, nous dire « Mais voilà, cette sécheresse, ça va être ta sécheresse, ce que le monde est en train de vivre, vous allez le vivre. » C'est pas possible. C'est pas possible. Tout est prêt, la trompette sonne, mais on ne marche plus au combat. Et ça peut être l'image de certains chrétiens et de quelques-uns ce matin qui ont arrêté de marcher par la foi, qui ont arrêté d'espérer, qui ont abandonné et qui ont arrêté d'espérer, imaginer avoir une victoire spirituelle, espérer en Dieu. Et laissez-moi vous dire, et je vais peut-être le répéter quelques fois encore, que Dieu a tout prévu pour son peuple. Dieu a tout préparé pour que nous puissions nous saisir de sa vie, de ces eaux vives, de cette eau qui doit couler, qui doit déborder en nous, quand bien même le monde se perd, se meurt, quand bien même l'apostasie est là, quand bien même la sécheresse est là au niveau spirituel, il me semble que c'est quand même les chrétiens qui, au jour d'aujourd'hui, peuvent amener la vie, peuvent amener cette eau vive, cette eau qui vient rafraîchir les âmes pour les mener, les diriger jusqu'à Jésus-Christ. Il y a une autre chose qui peut être le cas d'une personne, de chrétiens qui sont pris par cette sécheresse. Il y a peut-être ce drame qui concerne quelques-uns ce matin, c'est que lorsqu'on connaît cette sécheresse spirituelle, intérieure, lorsqu'on est en proie à ce désert dans notre âme, on ne cherche plus à donner du pain aux autres. On ne cherche plus à nourrir les autres. On ne cherche plus à pourvoir d'une manière spirituelle. On ne cherche plus peut-être à bénir sa famille. Cette femme va dire « Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. C'est pour moi cette nourriture que je prends. C'est pour moi que je viens à l'église. Je ne suis plus en état de bénir mes enfants. Je ne suis plus en état de bénir mon mari, mon épouse. Je ne suis plus en état de bénir mon entourage. Je prends de la nourriture que pour moi parce que je suis dans un tel état que je ne peux plus arriver. Je ne peux plus arriver à donner aux autres. » Ça peut arriver, vous savez, ça peut arriver d'être dans un état fatigué, épuisé, mais dans un état où on se dit « Mais Seigneur, je suis sec, je suis sec. » Les lamentations de Jérémie nous disent « La langue du nourrisson s'attache à son palais, desséché par la soif, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. » Le début de ce chapitre 4 des Lamentations nous dit « Et quoi, l'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. » Et je pense que vous êtes d'accord avec moi ce matin pour dire que nous vivons des temps où le peuple de Dieu ne doit pas être dispersé, ne doit pas être dispersé au coin de toutes les rues, mais doit être uni, où le peuple de Dieu doit quand même se démarquer là où le Seigneur vous a placé, dans votre foyer, dans votre travail, dans votre quartier. Le peuple de Dieu doit se démarquer parce qu'on a, normalement, on a toujours cette eau vive, la vie de Jésus-Christ qui coule en nous pour que nous puissions aller et donner de la nourriture autour de nous, donner cette eau qui finalement est la vie. Et le Seigneur, peut-être ce matin, voudrait nous rappeler et dire à quelques-uns qui sont dans cette situation, la situation de cette femme, « J'ai rien, je suis dans la sécheresse, ma vie spirituelle n'est plus ce qu'elle était auparavant, je suis centré sur moi parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas les moyens de bénir les autres. » Le Seigneur voudrait rappeler ce matin que, à l'image de cette femme, nous pouvons passer de cette sécheresse à l'abondance, parce que c'est ce qu'elle va vivre, cette femme. Vous savez, on peut être d'accord ce matin et dire ensemble que Dieu a permis que ce torrent de Kérit soit sec au moment où cette femme n'avait plus rien. Parce que ça aurait pu se passer d'une manière différente. Avant que cette femme n'ait plus rien, avant que cette femme n'ait plus qu'une poignée de farine dans ce pot et un peu d'huile dans la cruche, Dieu aurait pu dire, mais attends, Élie, écoute, quitte ce torrent, parce qu'il y a une femme là-bas qui a la foi, qui a une certaine piété, qui a une certaine révérence pour mon nom, elle va manquer de farine. Elle va manquer d'huile, va, pars maintenant, parce que je vais la bénir. Ça aurait pu se passer comme ça. Un ange du Seigneur aurait pu apparaître à cette femme. Cette femme aurait pu connaître la bénédiction de différentes manières. Mais peut-être que le Seigneur attend qu'on soit arrivé à une extrémité dans notre vie pour pouvoir intervenir, parce qu'avant, ce n'aurait pas été possible. Et cette femme va faire une expérience extraordinaire, une expérience qui va bouleverser sa vie. Et c'est ça qu'on a besoin de faire, frères et sœurs. On n'a pas besoin de grandir en connaissance théologique. On n'a pas besoin de grandir en connaissance, d'apprendre, et que notre connaissance nous décale de notre quotidien, de notre vie pratique avec le Seigneur. On a besoin de comprendre qu'on a un Dieu pratique. On a un Dieu qui veut se manifester dans notre quotidien. On a un Dieu qui voit nos besoins, qui sait que peut-être là où nous sommes, qui peut-être vous a vu cette semaine dire « Seigneur, je manque de ceci ». Seigneur, j'ai plus la force pour mes enfants. Ça peut arriver. Seigneur, j'ai plus la force pour mon foyer. J'ai plus d'amour. Ça peut arriver de dire cela dans son foyer. Seigneur, j'ai plus d'amour pour mon patron. Ça peut arriver, ça. Seigneur, j'arrive plus à aimer mes collègues de travail. Seigneur, et on pourrait multiplier les exemples. Mais ce que le Seigneur veut faire, c'est comprendre que la vie avec Jésus-Christ, c'est une vie qui se renouvelle continuellement. C'est une vie qui fait partie de l'abondance. Pas de l'abondance forcément matérielle, mais une abondance spirituelle. Ces fleuves qui nous emportent, la présence de Dieu qui est avec nous tous les jours de notre vie. Pas une présence de Dieu qu'on espère ressentir, qu'on espère avoir parce qu'on vient à l'église le dimanche matin ou un soir de semaine. Une présence de Dieu qui vient se manifester au milieu du désert, au milieu de la sécheresse. La voix de Dieu que nous pouvons entendre, quand bien même peut-être toute notre famille est contre nous, quand bien même notre vie est difficile. La voix de Dieu qui nous dit « Mais ne t'inquiète pas, j'ai déjà pourvu pour toi. » Et cette femme va faire cette expérience. Et vous savez, je pense qu'elle devait comprendre cela. Et je pense que nous aussi, nous devons comprendre. Nous devons comprendre que la farine et l'huile ne dépendent pas de l'extérieur. Nous devons comprendre que la parole de Dieu, l'efficacité de la parole de Dieu, cette présence du Saint-Esprit, cette vie de l'Esprit, ne dépendent pas d'une certaine ambiance que nous pouvons ressentir. Cette femme devait comprendre que quand bien même autour d'elle tout était sec, autour d'elle il n'y avait plus aucune culture, autour d'elle il n'y avait plus de blé, autour d'elle il n'y avait plus d'oliviers, autour d'elle c'était que la mort qui règne, parce que lorsque nous vous entendons et nous parlons de sécheresse, nous pouvons dire que c'est la mort qui règne. Cette femme et nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre et saisir ces choses au plus profond de notre cœur. C'est que tout ce que nous pouvons vivre ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de nos sensations, ne dépend pas de notre ressenti, que nos réserves spirituelles ne dépendent pas des expériences passées, mais dépendent uniquement de notre manière de nous comporter. Et on va le voir parce que cette femme va faire deux choses tellement simples, et ces deux choses tellement simples vont tellement la bénir. Et je me dis que si c'est ça qui l'a béni, si nous faisons ça, normalement, ça va nous bénir. Cette femme devait comprendre cela. Et cette femme, qui était dans un pays païen, qui avait perdu son mari, on pourrait dire, mais qui a connu la souffrance, lorsque le prophète va venir en lui disant « Écoute, si tu n'as rien, c'est pas grave. » Si tu n'as pas grand-chose, ce n'est pas ça qui est important. Mais voilà ce que tu dois faire. Et c'est ça qui va changer son quotidien, où règne la sécheresse, en un quotidien où il y a l'abondance, où il y a la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est ce que nous devons faire. Et ça se résume à juste deux mots, deux expressions. La Bible nous dit que premièrement, lorsque l'homme de Dieu a fini de parler, elle alla. Elle va réagir. C'est notre foi, frères et sœurs. Elle a eu confiance en cette parole. Et on a terminé ce texte en lisant ce verset. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie, c'est Dieu qui lui parle. Elle a entendu que pour qu'il y ait la bénédiction, la restauration, la vie qui se manifeste, ça n'avait rien à voir avec le stock qu'elle pouvait avoir. C'était une question de foi, de saisir que Dieu, par sa parole, peut amener la vie. Par sa parole peut venir combler notre existence. Elle a là la foi et elle fit selon la parole, c'est l'obéissance. C'est tout ce que cette femme va faire. C'est tout. Est-ce que lorsqu'elle a fait ça, la pluie est venue ? Non. Est-ce que quand elle a fait ça, des personnes ont tapé à sa porte en disant « Tiens, voilà, on a eu à cœur de t'apporter cela. » Non. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui a pourvu pour cette femme. Et c'est Dieu qui veut pourvoir pour nous. Parce que le problème pour Dieu, ce n'est pas la terre desséchée, ce n'est pas notre cœur desséché, sec. Le problème pour Dieu, ce n'est pas ce sol, ce monde qui manque d'eau. Le problème pour Dieu, ce n'est pas de faire venir des ruisseaux. Ce n'est pas venir apporter des fleuves d'eau vive. Le problème pour Dieu, c'est peut-être ce matin de trouver un cœur qui va avoir foi en lui, qui va dire, mais Seigneur, moi aussi je veux vivre comme cette femme a vécu, de la même manière, je veux aller sur ta parole et je veux faire selon ta parole. Je ne veux pas faire selon mes pensées, mon intelligence, mon analyse, mais selon ta parole. Selon ta parole. Et je vais terminer avec encore quelques pensées. Parce que le verset 15 nous dit, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Et c'est ça, cette source d'eau qui jaillit, jusque dans la vie éternelle. C'est ça, cette source que Jésus veut manifester dans notre vie. Frères et sœurs, où est notre foi ? Frères et sœurs, où est notre obéissance ? Frères et sœurs, c'est pas important que peut-être on ait juste un peu de farine ce matin. Ça peut arriver, vous savez, de passer des mauvaises périodes. On se laisse prendre au piège, on regarde pas. Ça peut arriver de voir dans la fiole qu'il reste juste un fond d'huile. Ça peut arriver. Ce qui ne doit pas arriver, c'est de dire « mais je n'ai rien prêt ». Je n'ai rien fait, rien n'est prêt. La parole de Dieu ne suffit pas. Ça, c'est pas possible, frères et sœurs. Où est notre foi ? Où est notre obéissance qui fait que le peuple de Dieu peut être victorieux, peut se lever ce matin en disant « mais je vais amener la vie autour de moi, je vais amener cette eau vive, je vais amener la bénédiction, je veux que ma fiole d'huile soit remplie, je veux que ce pot de farine puisse produire du fruit. » Vous savez, je pensais à tout cela, et il y a quand même ce texte qui est venu sur mon cœur. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et il y a quand même cette réalité. Et si ce matin, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui est là, dans les ténèbres, puisque la Bible nous dit que si nous sommes sans Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Si quelqu'un peut comparer sa vie à une terre desséchée, il y a toujours cette parole d'espoir qui sort du cœur de Dieu qui vous dit « Mais c'est Jésus qui est sorti de cette terre desséchée pour nous communiquer cette pluie, cette rosée divine, cette eau vive qui peut vous transporter et vous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes. » Et c'est pour cela que nous pouvons être assurés de cette réalité spirituelle. Et c'est pour cela que nous pouvons comprendre ce matin que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe l'état de sécheresse dans lequel nous pouvons nous trouver ou dans lequel nous évoluons, il y a toujours cela. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée pour nous communiquer la vie. Je terminerai en lisant juste ce texte. C'est dans Ésaïe 58, on peut le lire ensemble, marqué. Ésaïe 58, verset 11. C'est quand même une promesse et je pense que cette femme, c'est ce qu'elle a vécu. Et je pense que c'est ce que nous pouvons vivre. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Je le crois que c'est cette femme, que cette femme a vécu cela, et je crois que nous pouvons vivre cela. Vivre une vie où on n'est pas obligé de tarir, de flétrir, d'être sec, de manquer de la présence de Dieu. Parce que quand même, le Seigneur s'engage avec nous. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Et je vais vous lire juste ce verset, j'hésitais à le citer, mais peut-être que c'est pour quelqu'un, parce que quand même, le but d'être rempli, d'être arrosé, comme un jardin arrosé, le but, vous comprenez bien que c'est pour porter du fruit. C'est pas pour nous-mêmes. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il te redonnera de la vigueur, tu seras comme un jardin arrosé. C'est pour que nous puissions porter du fruit pour le roi des rois. Et je terminerai en lisant juste ce verset. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si le grenadier fleurisse. Là, je te donnerai mon amour. Plaise au Seigneur, vous savez, les grenadiers, c'est le symbole, c'est le témoignage. Plaise au Seigneur que les grenadiers puissent fleurir et porter du fruit dans cette église. On prie le Seigneur un instant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous rappelles. Nous voulons saisir, Seigneur, par la foi, tes paroles, ce que tu nous dis. Nous voulons obéir, Seigneur. Obéir à tout ce que tu nous dis. Parce que nous savons que c'est pour notre bénédiction, que c'est pour nous que tu fais ça. Parce que tu veux notre bien-être, tu veux nous amener plus loin avec toi. Merci, merci mon Dieu, parce que oui, tu n'étais pas obligé, mais tu as voulu nous donner Jésus-Christ, tu as voulu nous donner ton esprit, tu as voulu nous laisser ta parole pour que nous puissions être rassasiés de toi, nourris de toi, pour que nous puissions porter du fruit. Et nous voulons t'apporter ce fruit, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas accomplir. Merci, Père, pour ta présence dans notre quotidien. À toi soit la louange, la gloire, au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.